C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 11 mars 2025. Et vous êtes bien, je dirais même très bien, sur Odeur Radio, et à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 14h. Car figurez-vous que 14h, bah, c'est pile poil l'heure de Cinescent. Vous savez bien, la seule émission de cinéma de tous les cinémas qui ne vend rien, ni popcorn, ni soda, mais qui parle de tous les films. Ceux du Nord, ceux du Sud, ceux de l'Ouest et ceux de l'Est. Bah, tiens, une qui vient de l'Est, et de ses montagnes enneigées, du pays du saucisson brioché, et de la quenelle, Anne-Lise. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Patrick.
Comment allez-vous bien?
Mais ça va bien, et vous-même?
Moi, je vais très bien quand je vous vois, vous savez.
Oh, merci.
Et celui... Est-il encore besoin de le présenter? Son Altesse, le roi des ondes, le pape de la musique atypique, Jean-Jacques.
Oui, bonjour Jean-Jacques. Patrick, bonjour Anne-Lise.
Bonjour Jean-Jacques.
Ça va bien tout le monde?
Oui, ça va très bien.
Bon,
oui.
Moi aussi, merci. Donc, bon. Je préciserai même de la chanson atypique.
De la chanson atypique, oui. Oui, parce que c'est de la musique en même temps.
Oui, oui, voilà.
Mais de temps en temps, dans les chroniques, vous nous trouvez des... trucs qui sont un peu bizarroïdes.
Oui, tout à fait.
Mais alors,
c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah, c'est vrai, oui. On est bien d'accord.
Je vous aime tous.
Oui, moi aussi.
Nous aussi, on vous aime très fort.
Et alors, dans ce 21e épisode, car oui, nous en sommes déjà au 21e épisode, nous partons pour une heure d'exploration d'une année précise, 1940.
Eh bien, cette année-là, en janvier 40, une vague de froid exceptionnelle déferle sur la France. Il fait jusqu'à moins 24 degrés à Metz et moins 15 à Paris.
Ce qui est moins.
La neige recouvre presque tout le pays et la plupart des cours d'eau sont gelés. Bon, ceci dit, on échappe au pire puisqu'il fait moins 45 à Moscou. C'est toujours glacial à Moscou.
Oui, toujours, oui.
Bon, ceci dit, le 28 janvier, l'atmosphère se réchauffe un peu. Avec le succès de la revue Paris-London, menée par Josephine Baker et Maurice Chevalier.
Le 27 février, les chimistes américains Martin Kamel et Samuel Rubin découvrent le carbone 14, son application la plus connue et la datation qui permet de connaître le temps écoulé depuis la mort d'un organisme animal ou végétal.
C'est que la mort, eh bien, Staline la connaît bien, puisque le 5 mars, figurez-vous, il donne l'ordre d'exécuter les 25 000 prisonniers polonais qui n'ont pas encore été soit libérés, soit déportés au goulag, ou soit livrés aux Allemands.
Enfin, à partir de 1940 et pendant 3 ans, Marie-Louise Giraud va pratiquer 27 avortements illégaux dans la région de Cherbourg. Eh bien, elle est l'une des deux seules personnes à avoir été guillotinée pour ce motif en France. Et elle inspira à Claude Chabrol son film, vous savez, Une affaire de femme, dont voici un extrait.
6 en 7 ans de mariage. 6 fois 9 mois. Avoir le corps déformé. Et toujours un petit suspendu à mes seins. Affamé. Me fait l'impression d'être une vache. Si je disais la vérité, je les aime pas, mes enfants. Je les supporte. Mais je les ai jamais aimés. Même le premier. 16 heures qu'il a pris pour venir au monde, à me déchirer le ventre. Il n'y a qu'un été dont je me souviens où j'ai été heureuse. J'avais 16 ans. Et j'avais un joli corps. Les hommes me regardaient sans même oser y toucher. Il n'a pas fait beau temps cet été-là. Et moi, je me sentais légère.
Lorsque sort en janvier 1940 Les raisins de la colère, réalisé par John Ford, marque les esprits et s'impose comme une œuvre majeure du cinéma américain. Adapté du roman éponyme de John Steinbeck, récompensé par le prix Pulitzer, le film raconte l'exode de la famille Joad, partie chercher une vie meilleure en Californie, car contrainte de fuir l'Oklahoma ravagée par la Grande Dépression, le Dust Bowl, une succession de tempêtes de poussière ayant provoqué une catastrophe écologique et agricole. Le rôle principal, celui du charismatique Tom Joad, est incarné par Henry Fonda, qui livre ici une de ses performances eh bien, les plus mémorables. Son interprétation intense et engagée lui vaudra d'ailleurs une nomination à l'Oscar du meilleur acteur.
Et c'est mérité. À ses côtés, on retrouve Jane Darwell qui campe la touchante et résiliente Ma Joad et qui remportera l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation. Et parmi les autres figures marquantes du film, on note John Carradine dans le rôle du prêcheur Casey et un personnage clé du récit, symbole de l'humanisme et du combat pour la justice sociale. Tiens, en voici une courte présentation.
Et maintenant, enfin, vous allez voir les raisins de la colère. Le film qui renferme tout le drame, l'émotion, l'action, les larmes et les rires du roman qui a remué toute une nation. La distribution est choisie parmi les meilleurs artistes de l'écran pour que les personnages inoubliables de John Steinbeck soient animés d'une vie nouvelle. Tom Joad est joué par Henry Fonda. Man par Jane Darwell. Casey par John Carradine. Grand-père par Charley Gravin. Rose de Saron par Doris Bowden. Pa par Russell Simpson.
J'aime bien les présentations de cette époque, c'est pas du tout pompier.
Non. C'est très naturel.
C'est dans la simplicité la plus totale. Mais quand même, si Les raisins de la colère restent un film incontournable, c'est aussi, et peut-être surtout grâce à la mise en scène de John Ford, l'un des plus grands réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood. Habitué des westerns et des grandes fresques américaines, Ford adopte ici un style sobre et réaliste, jouant avec les ombres et la lumière pour renforcer le sentiment d'oppression et de misère. Son travail est couronné d'ailleurs par l'Oscar du meilleur réalisateur en 1941.
Alors Oscar, certes, oui. Mais pourtant son film a été controversé.
Ah bah oui.
Alors il faut savoir qu'à sa sortie, l'œuvre suscita des réactions, on va dire, contrastées. Mm-hmm. Le roman de Steinbeck avait déjà provoqué de vifs ébats en dénonçant les conditions de vie des travailleurs migrants. Eh ben, certains milieux conservateurs voyaient d'un mauvais œil cette critique sociale,
bah
allant jusqu'à qualifier le film de pro-communiste.
Bah, tiens donc.
Voilà. À noter que le final du film est différent de celui du
ça,
livre.
Et
oui, c'est quand même important. Si le roman de Steinbeck se termine sur une note sombre et bouleversante, la fin du film est légèrement adoucie. Une exigence des studios de l'époque qui craignaient un accueil trop négatif du public. Alors, petite anecdote, éviter les problèmes avec les syndicat, le titre provisoire du film fut Highway 66, en référence à l'autoroute qui traverse les États-Unis d'est en ouest et qui était empruntée par les migrants pendant la Grande Dépression.
Alors, plus de 80 ans après sa sortie, Les raisins de la colère reste un film d'une puissance rare. À travers la quête de dignité de la famille Joad, John Ford nous livre une œuvre poignante sur l'injustice sociale, la résilience et l'espoir. Encore aujourd'hui, son message résonne avec force, preuve de son intemporalité.
Eh bien, 24 ans après la sortie du film, les Rolling Stones sortaient leur premier album et ils ouvraient celui-ci avec Route 66, l'aventure commencée.
Get him to this kind of tip.
city looks oh so pretty, you'll see Amarillo.
Ah, c'est bon. Hein.
Le 1er mai 1940, oui. Les Jeux Olympiques qui devaient avoir lieu à Tokyo, puis réattribués à Helsinki, sont définitivement annulés à cause de la guerre. Le 13 mai, trois jours après sa nomination en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill annonce à ses compatriotes « Je n'ai rien d'autre à vous proposer que de la peine, du sang, de la sueur et des larmes. »
I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
Voilà, c'est dit.
C'est dit, voilà. Et il a tenu ses promesses.
Tout à fait.
En plus, hein, c'est un homme politique qui tenait ses promesses. Alors, deux informations maintenant qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. En ce deuxième trimestre de 1940, le 15 mai, les frères McDonald créèrent aux États-Unis leur premier restaurant.
Ah oui.
Figurez-vous. Eh bien, le même jour a eu lieu la première mise en vente des bas nylons. Oui. 72 000 paires sont vendues en 8 heures à New York.
Ah oui, quand même.
Voilà. Donc, rien à voir l'une avec l'autre.
Hein. Tout à fait.
Considération commerciale, tout ça.
Oui, tout à fait.
Alors qu'en Europe, les choses s'accélèrent au niveau du conflit. Mmh. Début juin, Dunkerque est en feu. 330 000 soldats alliés sont évacués. Les Allemands avancent rapidement en territoire français. C'est l'exode des Français vers le sud. Le 14 juin, les troupes allemandes occupent Paris, ville déserte et silencieuse. Le 18 juin, alors que le maréchal Pétain appelait à cesser le combat à la veille, le général de Gaulle lance à la BBC depuis Londres son premier appel à la résistance.
Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir, à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
On n'en est pas encore là pour l'instant.
On n'en est pas encore là, mais ça va bientôt, ça va bientôt arriver.
Écoutez, c'est bien de ressortir certaines archives qui peuvent servir de base. Mmh. En 1940,
oui,
Alfred Hitchcock a 41 ans.
Déjà.
Et oui, il a déjà à son actif plus d'une vingtaine de films. C'est alors qu'il quitte l'Angleterre pour aller à Hollywood, où le producteur David O. Selznick lui fait adapter le roman de Daphné du Maurier, Rebecca. Pour sa première expérience américaine, Hitchcock est confronté à un matériel très différent de celui auquel il est habitué. Moins d'humour, plus de psychologie et de peur, Rebecca ouvre de nouvelles portes aux réalisateurs.
Alors, habiter un espace n'est jamais une tâche facile. Surtout quand la présence fantomatique de la veuve de son nouveau mari persiste à se faire entendre dans sa maison. Bon, voilà qui peut résumer le film Rebecca. Demoiselle de compagnie de la riche Mrs. Van Hopper, une jeune Anglaise rencontre à Monte Carlo Max de Winter, qui semblait sur le point de se suicider et dont elle s'éprend. Max est veuf, sa jeune femme ayant péri au cours d'un naufrage. La jeune Anglaise et Max se revoient et finissent par se marier. Le couple regagne l'Angleterre et la jeune mariée est impressionnée par l'atmosphère imposante et sinistre du château de Manderley, dans lequel semble vivre partout le souvenir de Rebecca, la première femme de Max de Winter.
Alors, les premiers contacts avec le personnel du château, régenté par la gouvernante Madame Danvers, sont glaciaux. Cette dernière, attachée depuis toujours au service de la précédente Madame de Winter, Rebecca donc, lui vouant une passion sans limite, même à titre posthume, n'accepte pas l'intrusion de l'usurpatrice. Le souvenir de l'épouse disparue continue de hanter le château sombre. Lors d'un entretien avec François Truffaut en 62, Hitchcock revenait sur son film.
Vous êtes venu en Amérique, non pas pour faire Rebecca, mais pour faire Titanic.
Right.
Et comment s'est passé le changement de sujet?
I received information from Selznick that he had changed.
Selznick m'a informé qu'il avait changé.
He had bought Rebecca.
Il avait acheté Rebecca.
So I said okay.
Alors
you know,
je dis ok, ça
switch.
Va. Je changerai.
Vous êtes satisfait de Rebecca?
Are you satisfied with Rebecca?
Well, it's not a Hitchcock picture.
Mais c'est pas un film Hitchcock.
Oui, it's a novelette, really. It's
c'est
a
un conte, si vous voulez.
The story itself is
l'histoire
kind of belongs to the end of the 19th century.
À la fin du 19e siècle.
It belongs to around 1910.
Ça se situe vers 1910.
Old-fashioned story, really.
Une histoire assez vieux jeu démodé.
Il est assez sévère, Hitchcock, avec
oui,
son
un peu,
film.
Oui,
oui c'est vrai. Ouais. Dans ce film aux accents horrifiques, Hitchcock met en scène un espace hostile, celui de la maison, qui rejette la nouvelle femme. Vue comme une intruse, la demeure prend une allure inquiétante et les murs deviennent plus parlants qu'ils n'y paraissent.
Alors, la distribution comprend Laurence Olivier dans le rôle de Max de Winter, John Fontaine dans celui de Mrs. de Winter, Judith Anderson joue la très glaciale gouvernante Mrs. Danvers. Et puis, alors, sont présents à l'affiche, rien que ça, George Sanders, Florence Bates, Nigel Bruce. Oui, et Leo G. Carroll.
Ah oui.
Bien que Rebecca ait été tournée entièrement en Californie, alors Hitchcock n'en reste pas moins fidèle à son Royaume-Uni natal. En effet, les scènes clés ont pour cadre un manoir de la côte de Cornouailles. Le film fut un triomphe public, malgré Hitchcock lui-même, et critique, et il offrit à Selznick l'Oscar du meilleur film. Pourtant, vous l'avez entendu, Hitchcock n'était pas très satisfait de son film. Il disait entre autres...
Rebecca est une histoire qui manque d'humour.
Oui, c'est plutôt long. Olivier Hardy,
oui, oui, pour finir, deux petites anecdotes.
Oui.
Allez, d'abord, on trouve dans le film le traditionnel caméo.
Bah oui.
Ces apparitions du réalisateur Hitchcock apparaît dans le dernier quart du film, à proximité d'une cabine téléphonique. Et puis... Manderley a inspiré Orson Welles pour son Xanadu, le gigantesque château du film Citizen Kane.
Magnifique.
Ouais. Allez, la musique est signée Franz Waxman, dont le thème principal.
Thank you.
Alors, musique de circonstance, parce qu'on atteint le troisième trimestre de l'année 40 par le décès, le 15 juillet, de qui ? Eh bien, de l'homme le plus grand ayant existé dans l'histoire moderne, l'Américain Robert Wadlow. Vous savez qu'il mesurait 2,72 m.
Oh punaise!
Oui, oui, c'est grand. Hein.
Il pesait 199 kilos.
Ah oui, c'est lourd.
C'est lourd aussi. Hein.
Oui, les deux.
Mais alors, toujours au mois de juillet, le 27 pour être précis, un lapin gris fait ses débuts au cinéma.
Chantal Goya,
non? Non, non, pas Chantal Goya, non, non. C'est Bugs Bunny, hein, qui deviendra le personnage de cartoon apparaissant le plus souvent dans les films et dessins animés.
D'accord.
Quoi de neuf, docteur?
Ah oui.
Eh bien, le 20 août,
je le fais bien, hein,
oui, parfait. Le père de la révolution permanente russe, Léon Trotsky, est assassiné à Mexico par le militant communiste espagnol Ramón Mercader.
Et en septembre, la Continental Film est créée par les Allemands. Elle emploie la fine fleur du cinéma français, celle qui ne s'est pas expatriée, telle Henri-Georges Clouzot ou encore Claude Autant-Lara.
Et enfin, en septembre, a lieu un grand bond en arrière dans le temps, tout en étant un grand bond en avant pour l'archéologie préhistorique. Alors là, faut comprendre. En effet, le 8 septembre, des adolescents font l'une des découvertes les plus prestigieuses du XXe siècle, la grotte de Lascaux, du côté de Montignac-sur-Vézère. Oui. Alors écoutez Marcel Ravida, l'un des adolescents découvreurs.
Dimanche 8 septembre, j'étais en compagnie de Maurice Guérois, son frère, les frères Cluzel, Détrieux et Houperier. Nous étions montés marauder quelques pêches ou quelques raisins dans les vignes du père Baudry. Mon chien l'a accompagné et en passant dans près d'un rocher, il a pris une piste, il s'est mis à aboyer. Je l'appelle, il n'est pas venu. J'insiste, il ne vient pas. Je me suis rapproché de ce rocher. Et là, j'ai eu un trou d'à peu près 1 mètre de diamètre sur 1 mètre de profondeur. Une pierre m'a roulé sous les pieds. C'est un trou dans ce petit trou où vous grattez le chien. Puis c'est descendu, ça résonnait énormément. Le trou était connu depuis très longtemps. Il était connu par tous les fermiers des environs. Seulement personne ne soutenait une grotte. Voilà comment c'est découvert, tout à fait par hasard. C'est des choses qu'il faut vivre. Évidemment, c'était la joie, c'était l'enthousiasme. C'était une gloire, quoi. On a trouvé Lascaux. Je suis resté 20 ans sans voir Lascaux. Mais quand je suis rentré, j'ai eu un petit pincement.
Il faut dire que c'est magnifique.
C'est vrai, c'est très très beau. Mais maintenant, on voit Lascaux 3, 4, 5, je crois.
Non, c'est Lascaux 4 qui est ouvert il n'y a 4. Pas très très longtemps, qui est un vrai facsimilé par contre. Mais bon, quand on a eu le bonheur de visiter Lascaux, l'originel, c'est une vraie émotion.
Merci Patrick.
Je vous en prie Jean-Jacques, ça me fait plaisir de
En cette année 1940, le 15 octobre, pour être plus précise, sort à New York Le Dictateur, un film satirique réalisé par Charlie Chaplin. Il s'agit du premier film parlant du réalisateur britannique, réalisé juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il anticipe la possibilité d'une nouvelle guerre en Europe, en même temps qu'il rappelle la brutalité du régime nazi.
Bon, alors je vais vous le dire tout de go. Chaplin est sans doute le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma. Oui. Alors, place qu'il partage avec certains grands noms, comme Orson Welles, Stanley Kubrick et puis quelques autres. Mais qu'ont donc en commun ces quelques rares personnes ? Eh bien, ce sont des visionnaires. Des êtres d'une lucidité mordante et d'une intelligence situationnelle par rapport aux événements. Ils déploient leur talent pour alerter la population sur les dangers présumés ou réels d'un monde qui court vers sa perte.
Alors, dans son film, Chaplin raconte l'histoire du chancelier Adenoïde Hinkle, aux ordres duquel l'Europe courbe les Chines. Ça vous rappelle rien ?
Un peu.
Eh bien oui, bien sûr, il s'agit d'une satire d'Hitler et de sa troupe d'inféodés. À ceci près qu'ici, Hinkle fait rire. Il fait rire, mais il présente des visages inquiétants. Comme ça, l'air de rien.
Mais comme dans cette séquence incroyablement poétique et lunaire où le dictateur prend une map monde et joue avec comme s'il s'agissait d'un ballon. Jouer avec le monde, telle est l'image que Chaplin veut donner. Hitler et Hinkle sont cousins, voisins ou frères. Ils ont la même manière de parler. Hitler est inquiétant dans son propos. Hinkle l'est par le charabia qu'il aboie littéralement et la foule qui l'acclame sans rien comprendre à ce qu'il dit. La séquence du micro, je ne sais pas si vous vous souvenez,
est pour moi génial.
À la fois sublimement drôle et terriblement inquiétante.
Oui.
Fort heureusement, le petit barbier juif donne une opposition très facétieuse à l'ensemble du film. Chaplin joue avec nous comme Hitler a joué avec nous. Il nous transporte dans les affres de la politique. Hinkle prend le monde pour un vaste territoire de jeu. Il impose ses lois. Hitler faisait pareil. Chaplin, en faisant ce film, nous met en garde contre tous les totalitarismes, celui d'Hitler, celui de Mussolini et bien d'autres. Et il anticipe avec celui de Trump et de Poutine. Il faut savoir que le gouvernement allemand protesta officiellement avant-guerre contre sa réalisation et demanda l'abandon du projet que Chaplin tint à terminer malgré ses pressions.
Eh oui.
Alors, dans son discours final, le barbier, sous l'apparence d'Hinkle, adopte un ton radicalement différent du reste du film pour une séquence véritablement sérieuse et porteuse d'un message politique profond. Chaplin s'adresse directement au spectateur,
face caméra, oui.
Le personnage du barbier laissant la place à Chaplin lui-même. Cette scène, pleine de courage et de lucidité, montre un véritable acte politique engagé de la part de Chaplin.
Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Voilà.
Ce qui est fou, c'est l'actualité invraisemblable qu'a ce discours.
Petite précision, oui, la voix qu'on a entendue, c'est celle de Roger Carrel,
oui, qui est doublé Chaplin, qui est décédé il y a quelques années maintenant. Oui, oui. Alors Chaplin est un génie, hein, bien sûr. Bon, Le Dictateur est un monument de cinéma. Bah, pour moi, c'est le genre de film qui vous fait aimer le cinéma définitivement. Rappelez-vous par exemple la scène où le petit barbier juif rase un client sur la danse hongroise numéro 5 de Brahms. Alors écoutez, fermez les yeux, il ne manque que l'image.
Et voici notre heure musicale. Travaillez dans la joie et sur le rythme de la musique. Notre sélection d'aujourd'hui, la danse hongroise numéro 5 de Brahms. Thank you.
75, s'il vous plaît.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Mais bien sûr, sur 91.3, haut de radio, bien entendu.
Vous saignez un tout petit peu de la joue.
c'est le rasage, ça. Il était mal affûté.
Bon, alors le quatrième trimestre de 1940 est celui des naissances dans l'univers de la musique. Hein. Oui. Viennent au monde ceux qui feront la musique de demain. Bon, chacun dans son style. Choisissez. John Lennon,
oui.
Jacques Higelin,
oui.
Henry
oui.
Dess
oui.
et Frank Zappa.
Oui, oui.
Voilà.
Alors, le 3 octobre, à la demande du maréchal Pétain, oui. le Conseil des ministres interdit aux Juifs d'exercer une profession dans le cinéma, mais aussi le théâtre, la radio, l'édition et d'une manière générale dans la fonction publique.
Trois jours plus tard, avec de la suite dans les idées, la censure du régime de Vichy interdit l'exploitation en salle, je cite, des films d'incitation à la haine contre l'Allemagne, parmi ces films Salonique, Nid d'espion de George William Pabst, Entente cordiale de Marcel L'Herbier et La grande illusion de Jean Renoir.
Et le 13 novembre, Adolf Hitler rencontre Francisco Franco à Hendaye. Ah. Quand deux dictateurs se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent? Bah, des histoires de...
On suppose que... Ouais, des histoires. Bah, ce qui n'empêche pas Ernest Hemingway de publier en décembre « Pour qui sonne le glas ?» Une ode oui. au peuple espagnol pendant la guerre civile espagnole. Petit détour par la petite librairie de François Bunel.
La guerre d'Espagne en 1936 est le prélude à la Seconde Guerre mondiale. Quelques intellectuels seulement s'en sont rendus compte à l'époque, à commencer par André Malraux en France et Ernest Hemingway aux États-Unis. Hemingway, à cette époque, n'a pas encore reçu le prix Nobel de littérature, loin s'en faut. Et il se cherche encore sur les champs de bataille où il a été blessé pendant la Première Guerre mondiale. Correspondant de guerre en Espagne, il est aux premières loges pour écrire ce qui deviendra son troisième roman, Pour qui sonne le glas. Le titre est tiré d'un poème de John Donne qu'il n'est pas inutile de rappeler. Le voici. « La mort de tout homme me diminue parce que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. » Son exceptionnel pouvoir de suggestion imprime au récit une vertigineuse vraisemblance. Hemingway est un maître quand il s'agit de nous faire pénétrer dans l'âme d'un homme qui a fait le choix de donner sa vie pour la liberté.
Retour en France. Oui. Allez, le cinéma subit de plein fouet l'impact de la guerre. L'occupation allemande va restreindre la production cinématographique. Mais quelques films notables voient le jour tout de même. Alors, on va retrouver Remorque de Jean Grémillon avec Jean Gabin et Michel Morgan. Et c'est l'un des films rares, en fait, à sortir cette année-là. Ce drame maritime, tourné en partie avant la guerre, marque par sa poésie, sa profondeur. C'est l'histoire d'André Laurent, un capitaine de remorqueur dévoué à son travail, dont la vie bascule lorsqu'il sauve la mystérieuse Catherine lors d'une tempête. Pris entre son devoir, son mariage malheureux et son amour naissant pour Catherine, il se retrouve face à un dilemme tragique, amplifié par l'âpreté du destin et des éléments.
Bah oui.
Alors, bon, malgré une cinquantaine de films sortis en 40, souvent passés à la trappe d'ailleurs, d'autres projets sont ralentis ou encore avortés. Oui, les studios français entrent dans une période de repli. Et il y a bien sûr l'omniprésence de l'occupant allemand qu'a créé, je vous rappelle, Continental Film.
Oui.
Cette omniprésence de l'occupant allemand que soulignait le journaliste Olivier Baron, voici un résumé de l'état des lieux du cinéma français sous l'occupation.
La collaboration cinématographique franco-allemande est en 1940 une vieille histoire. Le statut des Juifs d'octobre 1940 les chasse ignominieusement de la profession. Goebbels, ce grand cinéphile, enjoint à la France d'œuvrer dans la légèreté. Une société allemande, la Continental, dirigée par un ami de Göring, recrute sans la moindre difficulté réalisateurs, interprètes et techniciens.
Alfred Greven crée officiellement la société Continental Film le 1er octobre 1940. En découvrant la symphonie fantastique, Goebbels enrage. Le film est d'une qualité insigne, écrit-il dans son journal, et constitue un hymne national de premier ordre. Le jeune scénariste Henri-Georges Clouzot va sonner le glas de l'ambition européenne de la Continentale.
Greven, il m'a donné l'autorisation de tourner L'Assassin Beethoven 21 et tout de suite après Le Corbeau.
S'il respecte l'apparence d'un pur divertissement policier, le film décrit la déstabilisation d'une petite ville de province par des lettres anonymes. Le film montre une société livrée à la peur, où la police ne protège plus, où la justice, impuissante, préfère s'en prendre à des victimes désignées pour s'attirer les bonnes grâces de l'oppresseur.
Et puis, ce que vous savez, c'est-à-dire que je me suis fait foutre à la porte par M. Greven. J'ai été foutu à la porte parce que la commandanture s'est plaint qu'on décourageait les auteurs de lettres anonymes. C'était en fin 41, c'était le moment où les délations étaient vraiment très utiles.
Cet incident va avoir une portée internationale. Les autorités allemandes cherchaient un prétexte depuis des mois pour supprimer la diffusion dans les autres pays européens des films français, dont la concurrence est jugée dangereuse pour les films germaniques.
Germanique. Oui, oui, tout à fait. Alors, le public en quête d'évasion se tourne davantage vers le cinéma américain qui continue de produire un rythme soutenu et pour cause. Donc, l'année 40 est marquée par une explosion de chefs-d'œuvre. Ouais. On vient de le voir avec Les Raisins de la colère et Le Dictateur. Mais comment parler de 1940 sans évoquer Fantasia de Walt Disney? Ce film expérimental mêlant musique classique et animation repousse les limites du médium.
Et oui, Fantasia n'est pas qu'un chef-d'œuvre artistique, c'est aussi une petite révolution technique.
Ah, expliquez-nous ça.
Pour la première fois, en fait, le film utilise un nouveau procédé de son stéréophonique, le Fantasound. Yeah. Ce système permet une spatialisation sonore inédite, offrant une expérience immersive unique pour l'époque. Et oui, bien que coûteux et difficile à exploiter dans les salles de cinéma, il pose les bases du son Sunround, deviendra un standard des décennies plus tard.
Alors, entre la guerre qui bouleverse le cinéma européen et Hollywood qui enchaîne des chefs-d'œuvre, 1940 est une année contrastée mais déterminante pour le 7e art. Entre satire politique, réalisme social et avancée technologique, le cinéma continue de se réinventer malgré un monde en pleine tourmente.
Et côté musique,
musique.
Et bien, le 13 décembre 1940, Django Reinhardt enregistre Nuage, qui va
être adopté
immédiatement par les Français, alors que les autorités, elles considèrent le jazz comme dégénéré car judéo-nègre.
Ah oui, voilà. Quand même.
Nuage est certainement le morceau le plus joué de toute l'occupation. Thank you.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Vous l'avez reconnu, notre petit jingle du ciné, télé et canapé. On va donc vous parler. C'est des films qu'on voit à la télévision, pas en
plus. Alors, on va pas commencer par demain, mais par ce soir.
On va commencer par ce soir.
Qu'est-ce que vous nous proposez de regarder?
Moi, j'ai du lourd.
Moi, j'ai pas du lourd, mais j'en ai un.
Moi, j'en ai un petit mignon.
Moi, j'ai du très lourd.
Allez-y, Patrick.
Alors, mais c'est tard, hein. 23h20 sur Paris Première.
Ah oui, mais non, ça va pas du tout.
Bon, alors,
vous l'avez?
Pas du tout.
Ah bon, d'accord. Henri-Georges Clouzot, bah justement, on en parlait il n'y a pas longtemps.
Lequel ?
Bah, Le Diabolique.
Ah oui.
Ah, grand film. Lourd. C'est du très très lourd. Hein.
Avec magnifique Charles Vanel.
Avec un magnifique Charles Vanel, un magnifique Paul Meurice, Simone Signoret, Vera Clouzot. Et la première apparition à l'écran
de
Jean-Philippe Smet. Grand, grand film.
Très bien. Ben moi, alors, Anne-Lise, vous...
Moi, j'ai Sister Act avec Whoopi Goldberg sur M6 à 21h.
C'est marrant.
C'est mignon. J'ai pas dit que c'était un grand film.
Non, c'est marrant. Préciser l'horaire pour qu'on l'évite.
Je viens de le dire, 21h. Oui. Et c'est pas pour l'éviter, c'est pour le voir. Non.
Ah bon, pardon.
Sur M6. Ne me cherchez pas.
Alors, toujours ce soir à 19h05.
Ah oui, non, mais faites plutôt aussi pendant que vous...
Non, mais c'est l'heure du repas et vous allez comprendre pourquoi. C'est sur TCM Cinéma, c'est le Festin de Babette.
Oh, grand.
De Gabriel Axel en 86, avec Stéphane
Audran. Hein.
L'histoire de cette femme qui se met au service de vieilles demoiselles sur un village, dans un village de la côte danoise, qui joue à la loterie chaque année et qui un jour gagne.
Ouais.
Et avec l'argent qu'elle gagne, elle offre un grand repas au village.
Très
rigoriste,
très
protestant. Voilà. Et superbe. Si vous aimez la nourriture et la gastronomie,
oui, ça c'est mieux que la grande bouffe, quoi.
Ouais, c'est une autre idée, c'est une autre grosseur.
Mercredi.
Oui.
Oui.
Alors mercredi, vous avez quoi?
Moi j'en ai un.
Moi aussi.
Moi aussi j'en ai un.
Alors qui commence?
Alors. Bon, moi je commence.
Allez-y.
Alors 21h10.
Oui.
Oui.
C'est Star.
Ah. Non, c'est pas Star, c'est 21h10, c'est pas Star.
Bah, c'est,
ah,
non, c'est
vous
pas
voulez dire que c'est sur ces stars?
C'est sur ces stars, oui.
Ah. Oui.
Un film de Paul Verhoeven. Avec Schwarzenegger et Sharon Stone.
D'accord, merci beaucoup.
Total Recall. Ah, ça se passe dans un futur proche en 48.
Oui.
Le Doug Quaid coule des jours heureux entre son boulot, son épouse et ses amis, mais c'est lui, son mouvementé, un songe récurrent vient perturber son sommeil. Et donc voilà, vous découvrirez le film si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est, voilà,
oui, c'est
pas mal. C'est visible.
D'accord. Annelise ?
Moi, sur Arte, à 21h, j'ai Les cerfs-volants de Kaboul.
Ah,
oui, j'ai failli le prendre aussi.
C'est Yasmina Kadra ?
Oui, c'est ça. Et c'est un très joli film, en fait, qui parle de rédemption, on va dire, sur un garçon qui, au départ, défend toujours son ami. Et puis un jour, il s'enfuit.
Oui.
Il s'enfuit également de son pays lorsqu'il y a la guerre. Et son ami d'enfance sera ami, l'appelle en lui disant « Écoute, reviens si tu veux. » Et
pris de remords, il revient.
Voilà, il retourne dans son pays. C'est un très joli film.
Très joli livre.
Ben, moi, je vous propose un autre film aussi intéressant, à 20h50 sur Ciné Plus Classique, Les Vitelloni. Bon, Les Vitelloni, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire
petit veau.
Petit veau.
En fait, c'est l'histoire qui se passe à Rimini, une station balnéaire sur l'Adriatique. On est dans la morte saison. Il y a 5 personnages qu'on surnomme les Vitelloni. Nonchalant, oisif, il déambule la nuit, le jour, il joue au billard, il rare passer les filles aux terrasses de café, tu vois, il parle d'amour. Ils ont 30 ans, en fait. Et il fuit toutes ses responsabilités jusqu'au jour où le séducteur de la bande apprend que la sœur de son ami attend un enfant de lui. Voilà. Alors, Fellini a beaucoup puisé dans son histoire personnelle pour l'histoire de ces 5 personnages-là, qui sont des personnages coincés, en fait, entre l'adolescence prolongée et l'âge adulte. Voilà. Les Vitelloni, 20h50, ciné plus classique.
Mercredi.
Fellini.
Mercredi. Jeudi.
Moi, j'ai rien. C'est le jour des enfants, j'ai rien.
Moi, j'en ai un.
Moi aussi, j'en ai un.
Bon, mais
on en a déjà parlé,
Anne-Lise.
Je crois, il n'y a pas très longtemps. Anne-Lise, dites-moi.
Moi, j'ai Présumé innocent avec j'ai Harrison Ford sur Arte à 21h.
Oui, oui.
Marié depuis 10 ans avec Barbara, qui a cessé de travailler pour élever Nat, leur fils de 9 ans. Oui. Rutsi et Sabiche mènent une vie sans histoire. Premier substitut auprès du procureur, ce juriste réputé rejoint chaque matin en ferry le cabinet où il travaille avec la jeune Caroline Paulet. Aussi séduisante qu'ambitieuse, lorsque cette dernière se retrouve assassinée à son domicile et il est chargé de l'enquête. Et ça a pas l'air comme ça, mais il est plutôt pas mal fait.
Non mais Harrison Ford, il va être accusé
en fait.
Oui, c'est ça.
Du meurtre en fait de cette personne, de cette jeune femme.
Et c'est de qui? D'accord.
Okay. C'est d'un réalisateur
américain. Tout à fait américain. Ouais. D'accord. C'est ça, voilà. Et vous, Patrick ?
Alors moi, j'ai un film d'un jeune réalisateur en 56 qui s'appelle Alfred Hitchcock. C'est sur TCM Cinéma. Ça s'appelle L'homme qui en savait trop.
D'accord.
Donc voilà, on en a déjà parlé. Donc c'est ça vaut quand même le coup de le citer.
On va passer à vendredi, peut-être ?
Alors vendredi, oui.
Alors moi, j'en ai un, si vous voulez.
Allez-y.
À 21h05 sur France 5.
Ah oui.
Personne là. Ridicule de Patrice Lecomte.
Ah oui.
L'histoire du jeune baron Grégoire Ponceludon de Malavoie, n'est-ce pas, qui vient plaider auprès de Louis XVI la cause des populations de sa région qui périssent sous l'effet d'épidémies répétitives dues à un environnement marécageux
dans les Dombes.
Et alors à Versailles, il va être pris sous la protection du marquis de Bellegarde. Qui va l'introduire dans un petit cercle d'amis influents. Voilà, c'est une sorte de chronique de la vie de la cour sous Louis XVI.
Oui, c'est ça. Mm-hmm.
Et on retrouve à la distribution Charles Berling, Fanny Ardant, Jean Rochefort, Judith Godrèche, Bernard Giraudot et d'autres encore. Mm-hmm. Voilà, c'est ridicule sur France 5 à 21h05.
Et c'est très intéressant, c'est un
chouette
film.
Vous avez quelque chose d'autre ?
Moi, j'ai quelque chose.
Oui, moi aussi. J'ai Impitoyable de Clint Eastwood à 21h sur France 3. Classique, du classique, mais à voir.
Bon, ben moi, j'ai la suite, puisque j'avais noté Soirée Clint Eastwood. J'ai Pour quelques dollars de plus de Sergio Leone. Qui suit immédiatement après.
Oui, qui suit, mais qui est chronologiquement...
Oui, qui précède, mais qui suit dans la soirée.
Nous arrivons à samedi. Alors ça, je vais vous dire, samedi et dimanche, j'ai rien, je ferme la télé.
D'accord. Et pourtant,
samedi sur France 4.
Mais non, j'ai autre chose à faire,
sur France 4.
En elle-même.
Oui, Agnès Varda.
Cléo de 5 à 7.
Oui, voilà.
Corinne Marchand, Antoine Boursellier.
Tout à fait.
Qui est le papa de Christophe Boursellier, vous savez.
Oui, c'est fou, et le demi-frère de Marie-Sarah.
Absolument.
Ancienne
Torero. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites quand vous apprenez que la maladie vous guette ?
D'accord.
Hein ?
Ok, on en a parlé il n'y a pas longtemps.
On a consacré
une émission à Agnès Varda.
Tout à fait.
Absolument. Voilà.
Et donc vous, Anne-Lise ?
C'était le même, en fait, Chloé de 5 à 7.
Et alors dimanche, il n'y a rien puisqu'on éteint les télés.
Moi, j'ai pas la télé.
Sur 21h à Arte.
Sur 21h ?
À 21h
sur Paris Première.
Sur Arte. Avec Julia Roberts.
Qui
Julia Roberts.
J'ai compris.
De Alan Pacula. L'affaire Pélican, je ne vais pas y arriver.
Non,
hein.
Je ne pense pas.
Voilà, sur deux magistrats de la Cour suprême qui sont assassinés. Lancée sur l'enquête, c'est une professeure de droit, qui va en fait enquêter sur cette affaire.
D'accord.
Qui met en cause un peu,
vous nous dites ça en vous repeignant, je reviens.
Oui, écoutez, de toute façon, on peut
vous dire. Alors, moi, sur Paris Première à 21h, moi, j'ai un film de Stanley Kubrick de 87.
Qui est
Full Metal Jacket.
Yes,
ah oui, sir. Bien sûr.
Matthew Modine, Lee Ernest, Vincent D'Onofrio et Adam Baldwin. L'instruction de quelques Marines pendant la guerre du Vietnam avec le sergent Hartman, particulièrement dur, et qui prend en grippe le jeune homme baleine qui est un peu enrobé et un peu demeuré. Voilà.
Eh bien, le week-end n'est pas fini, puisqu'on arrive. Si, il est fini alors.
Oui, on arrive à lundi. Mais
alors,
moi, j'ai rien.
Moi, j'en ai un.
Moi, j'ai.
Bah, allez-y.
À quelle heure, vous ?
20h55.
Sur
Arte.
Je vous en prie, c'est le même.
Ah bon, bah non, allez-y.
Masque de Claude Chabrol.
Tout à fait.
Alors, une nouvelle fois, on plonge dans la bourgeoisie, mais celle-ci de la télé, avec Christian Le Gagneur, qui est un animateur vedette, et Roland Wolf, qui est un jeune journaliste qui souhaite écrire sa biographie. Et pour travailler dans de bonnes conditions, ils vont passer le week-end à la campagne, dans la grande maison de Le Gagneur. Et là, ils font connaissance de la famille et des amis proches. Un petit monde qui cache un mystérieux secret, et voilà. Et il est temps que les masques tombent. C'est avec Philippe Noiret, Robin Renucci, Bernadette Lafont, Anne Brochet, Pierre Nougaro, le père de Claude.
C'est
oui,
fou, hein.
Et Monique Chaumette.
Et Monique Chaumette, la femme de,
la femme de Philippe Noiret, bien sûr.
Voilà. Et très chouette. Écoutez, il n'y a plus rien. Alors, après les films déjà sortis, il était logique de parler des films à sortir. Mais c'est ce qu'on va faire à l'instant.
Allons-y.
tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est tellement vrai qu'on va se rendre un peu en avance devant les portes des cinémas.
Oui.
qui nous proposeront demain, dès la première heure, certains films.
Alors, Blanchet la campagne.
Voilà, moi j'en ai qu'un à vous proposer.
Moi aussi j'en ai un, c'est plus un documentaire
moi,
d'ailleurs,
j'en ai trois,
plus qu'un film.
Un chacun.
Oui. Patrick. Moi j'ai Black Box Diaries.
Bon ben je l'enlève, alors je l'avais aussi, c'est celui dont je voulais parler.
De Siyoroti Ito, c'est l'histoire en fait, bah, l'histoire
mais
de
c'est
la...
C'est un documentaire, non
documentaire,
c'est un documentaire,
ouais,
oui, oui.
De Siyoroti Ito en fait, qui a été abusé par un homme puissant proche du premier ministre japonais. Salut. On va la suivre dans sa quête en fait de vérité pour faire éclater, pour sortir en fait et briser le silence qu'il y a aussi là-dessus au Japon.
Oui.
Elle va être confrontée bah, aux familles, à sa famille, au système, au journalisme aussi. Et du coup, c'est assez, c'est une belle histoire. Enfin, c'est pas une
ça
histoire.
Ça a l'air très intéressant.
Ça a l'air très intéressant ouais, en tout cas, fait. Et on suit vraiment la quête de cette femme.
Ils en ont parlé dans Click il y a pas longtemps.
Alors Patrick, vous avez votre sélection.
Alors bah, moi, ma sélection, bah, j'hésite entre deux. Alors un ou trois.
Trois.
Donc je vais prendre le 1. C'est un film qui s'appelle On ira de Enya Barou avec Hélène Vincent.
Sur la fin de vie.
Voilà, sur la fin de vie avec Hélène Vincent, Pierre Letin et David Ayala. Marie, 80 ans, on a le ras-le-bol de sa maladie, elle a un plan, partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils irresponsable et Anna, sa petite fille en crise d'ado, elle panique et invente un énorme mensonge, prétextant un héritage mystérieux à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble, et alors complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping-car familial et conduire cette petite famille dans un voyage inattendu. Là encore, les masques vont tomber, les gens vont se révéler.
Bien, moi je finirai par ma sélection, Partenope de Paolo Sorrentino. Mmh. Alors le pitch, bah, c'est la vie de Partenope et de sa naissance dans les années 50 à nos jours. Voilà, c'est une épopée féminine qui est dépourvue d'héroïsme et qui est prise de liberté et d'amour. Et puis là, proche et lointaine, il y a cette ville indéfinissable, Naples, qui ensorcelle, enchante, hurle, rit et peut nous faire mal. Voilà, c'est avec notamment Stefania Sandrelli, qui était une des égéries du cinéma italien des années 70, qui a travaillé avec Pietro Germi, Monicelli, et surtout le très grand Ettore Scola. Voilà, Partenope.
D'accord.
Voilà.
Bon ben voilà.
Oui, quoi ?
Ah ben, 6 décembre, c'est fini.
Ah non.
Oui, 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 je vous le dis, 6 décembre, c'est bel et bien fini.
Non, non.
Mais pour cette semaine,
ah
que
bon,
vous êtes naïf.
Oh, qu'est-ce qu'on joue bien.
Ah oui, vous êtes formidable. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode où il sera question de... Ben, vous le saurez en écoutant, tiens.
Ah bon, très bien.
Et ce sera sur O2 Radio 91.3, bien entendu.
Oui, évidemment.
Alors nous allons reprendre une heure normale, faite de crêpes, de gourmandises en tout genre, de celles qui tombent directement sur les hanches.
Hein. Oui.
D'ici la semaine prochaine, il vous est possible de réécouter cet épisode et ceux qui l'ont précédé. Comment ? Ben, on vous l'a déjà dit. Vous allez sur le site d'Odeur Radio, rubrique podcast, et vous choisissez l'épisode que vous avez manqué.
On se quitte avec la chanson Perle dénichée par notre expert en chanson, Perle.
Ouais, voilà. Alors, pendant l'occupation, à côté de la chanson réaliste, fleurissait la chanson plus légère, celle des amours romantiques ou grivoises, des escapades dominicales dans un coin de verdure. Pourtant, comme le faisait Tony Bert, chanter « Chut, 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 méfiez-vous » en 1942, c'était pas anodin, n'est-ce pas ?
Allez, à mardi prochain, et en attendant,
bon vent à tous.
Un conseil aux jeunes filles qui voudraient sortir le soir, surtout si elles sont gentilles et recherchent les coins noirs. Quand la lune est sans tache, c'est merveilleux, mais si elle se cache, c'est dangereux. Garde à la pénombre, n'allez pas dans les coins sombres, car l'amour est là par tous les temps. Il se cache, il guette, il vous attend. Prenez garde à son manège, si
vous tombez dans son piège, rusé comme un bruit cambrioleur, il vous prendrait votre cœur. Chut, 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 méfiez-vous, car l'amour est partout. Chut, 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 méfiez-vous, rentrez vite chez vous. Méfiez-vous. Un beau soir, la belle Annette s'en va, le cœur palpitant, poursuivant la pensée secrète, il la trouve éperdument. Elle marche avec grâce vers l'inconnu, mais une ombre l'enlace, un cœur perdu. Méfiez-vous, car l'amour est partout. Chut, 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 méfiez-vous, rentrez vite chez vous. Méfiez-vous.